LPGA. Et il n'y a pas un homme de la PGA également qui a gagné 9 fois. Elle devient la joueuse de golf la plus titrée de l'histoire du Canada, tous sexes confondus.
Merci, Dan. On va maintenant parler de ce qui se passe du côté de Hong Kong, parce que hier, plus de 2 millions de citoyens sur une population de 7 sont descendus dans les rues pour manifester leur appui à la démocratie, pour protester contre le gouvernement chinois. Et pour en parler, on va aller rejoindre un politologue spécialiste de l'Asie, Loïc Tassé. Bonjour.
Bonjour.
Donc d'abord, expliquez-moi un peu, là, qu'est-ce qui se passe à Hong Kong? Qu'est-ce qui a jeté le pays dans un désarroi comme celui qu'on connaît présentement? Pourquoi les gens sont en colère et sont dans la rue?
Oh, mais il y a plusieurs niveaux. Mais en commençons simplement, en reprenant le fil des événements, et oui. Je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer les choses. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un meurtre sordide à Taïwan qui a été accompli par un jeune résident de Hong Kong contre sa copine, qui était aussi une Hongkongaise, et ce meurtre s'est produit donc à Taïwan. Le résident de Hong Kong est retourné à Hong Kong après avoir visité donc Taïwan, et il a déclaré que oui, c'était lui qui avait commis ce meurtre.
Qui avait tué.
Alors Taïwan a dit bah, vous allez nous envoyer ce meurtrier, on veut le juger à Taïwan. Et là, le meurtrier a dit « Ah oui, mais non, vous pouvez pas faire ça. Parce que moi, je suis résident de Hong Kong et il n'y a pas de traité d'extradition entre Hong Kong et Taïwan. » Ou pour dire plus justement, parce que dans l'esprit de Hong Kong, Taïwan fait partie de la Chine continentale, il n'y a pas de traité d'extradition entre Hong Kong et la Chine en général. Alors, Madame Lam, qui est premier ministre de Hong Kong, elle dit bah, qu'à cela ne tienne, nous allons faire un traité d'extradition. Sauf que le traité d'extradition ne concernait pas que les criminels de droit commun, les meurtriers, les voleurs, etc., mais concernait en fait toutes sortes de gens qui avaient commis toutes sortes de crimes, y compris des crimes économiques. Et les Taïwanais ont regardé ça, ils ont dit « Oui, mais attendez, Madame Lam, avec votre projet d'extradition, ce qui est en train de se produire, c'est que, de facto, vous êtes en train de soumettre tous les résidents de Hong Kong, non seulement à la loi de Hong Kong, ce qui est normal, mais aussi aux lois chinoises. Et donc, on perd une partie de notre souveraineté à Hong Kong en faisant ça. Et on est contre. On ne veut pas que vous fassiez ça.
Pour bien comprendre, il faut que nos auditeurs sachent que Hong Kong a un statut particulier. Il faut comprendre qu'historiquement, c'était une colonie britannique. Il y a eu une entente qui a été faite avec la Chine. Et là, ils sont dans un processus de transition, si on peut dire.
Oui. Alors, en ce moment, Hong Kong est souverain, sauf sur deux domaines. C'est la défense et la politique étrangère. Toutes les autres lois sont faites par le gouvernement de Hong Kong lui-même jusqu'en 2047. Et en 2047, Hong Kong va devenir une ville chinoise comme toutes les autres. Ils n'auront plus cette indépendance. Donc, les Hongkongais sont très jaloux de cette indépendance. Et c'est ce que je disais. En surface, donc, on dit, oui, mais quand même, ce traité d'extradition, effectivement, ça pose problème. Mais un problème encore plus profond, c'est que, justement, Pékin a pas vraiment respecté cette indépendance de Hong Kong, et Pékin s'est mis à jouer à l'intérieur de tout le système du gouvernement, de tout le système électoral de Hong Kong, qui est pas très démocratique, mais quand même il y a un peu de démocratie, pour faire élire ou faire nommer des gens qui sont très pro-Pékin, des gens qui sont très proches de Pékin. Et donc, par la bande, finalement, Pékin est arrivé à prendre petit à petit de plus en plus de contrôle sur les lois de Hong Kong. Et donc, d'une certaine manière, cette loi sur l'extradition que voulait faire voter Mme Lam, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les Hongkongais disent « ça suffit ». Pékin intervient beaucoup trop dans nos affaires et nous redoutons ce qui se passe en Chine. Nous ne voulons plus que Pékin intervienne comme ça.
OK. Là, ce que j'essaie de comprendre aussi, c'est que tout ce combat-là, en fait, c'est un combat un peu... C'est pour la liberté, parce qu'il faut comprendre que Hong Kong, c'est quand même des gens qui ont beaucoup plus grande liberté et qui se battent contre un régime totalitaire. Là. C'est ce qu'il faut comprendre, que le régime chinois, d'ailleurs, aujourd'hui, vous écrivez même que les dirigeants sont engagés depuis plusieurs années dans une dynamique de dictature extrême. Ça vous rappelle oui. même 1984 de Orwell.
Oui.
C'est quelque chose qui déborde les frontières, en fait, même de la Chine, là.
Et c'est ce que disent, en tout cas, les gens qui sont en faveur de la démocratie à Hong Kong. En effet, la Chine de Xi Jinping, donc qui est en poste depuis 2012, n'a rien à voir avec la Chine de Deng Xiaoping, qui, grosso modo, est resté au pouvoir de 1978 à 1996, et puis ses successeurs ont continué plus ou moins sa même politique de Deng Xiaoping, jusqu'à ce que Xi Jinping arrive au pouvoir. Et depuis que Xi Jinping est là, on sent un virage énorme à l'intérieur même de la Chine, et les gens qui suivent un petit peu ce qui se passe en Chine le savent très bien, par exemple, avec toute la question de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vocale qui se fait, il y a une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, de tous les citoyens chinois qui est en train de s'instaurer en Chine. C'est-à-dire que les gens ne pourront rien dire contre le gouvernement, ne pourront pas le critiquer. On va demander aux gens d'avoir une attitude irréprochable dans tous les domaines, parce qu'on va leur donner un bulletin à la fin de chaque année. Et donc, on se retrouve dans une société qui est finalement une société qui ressemble à une vaste prison. Une prison où tout le monde est surveillé, surveillé par des micros, par des caméras, par les autres. C'est pire que ce que George Orwell avait prédit dans son... Enfin, avait vu dans son livre 1984.
Et là, si jamais les Hong Kongais qui sont dans les rues présentement perdent, pour l'Occident, ça pourrait être un dangereux précédent, puis ça pourrait enclencher des grosses tensions. Déjà qu'avec la Chine, ça va pas bien, là.
Non, ça va pas bien. Et ce que les gens disent là-bas, c'est qu'ils disent attention à nos démocraties. Ils disent faites bien attention à ce que vous faites. Parce que les Chinois ont... se sont servis de Hong Kong comme d'un mini-laboratoire, en fait, pour aller farfouiller dans les systèmes électoraux. À Hong Kong, il y a une proportionnelle, entre autres. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soutenu toutes sortes de candidats qui divisaient le camp démocrate. Ils ont subventionné à outrance des candidats qui étaient pro-Pékin. Ils ont fait toutes sortes de manœuvres, en fait, qui ont fait en sorte que, dans les démocraties, les partis qui étaient pour la démocratie, enfin à Hong Kong, les partis qui étaient pour la démocratie ont de plus en plus de mal à s'allier les uns avec les autres. Hmm. Et en effet, il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a une forte diaspora chinoise, il y a beaucoup de pays dans le monde des démocraties qui ont des proportionnelles, et ce que disent ces gens, c'est attention, la tentation de la Chine d'intervenir dans votre système électoral est très forte. Regardez ce que la Russie a fait aux États-Unis, regardez les avertissements qu'on lance à travers le monde, parce que on a des pays qui de plus en plus s'ingèrent dans les élections des pays démocratiques. La Chine pourrait effectivement faire quelque chose de similaire.
On a vu même ici avec Huawei puis toute la crise oui. que ça a occasionné. Est-ce que ça a rapport avec ça, là, quand on parle des manipulations
chinoises? Oui, parce que
Huawei,
ça fait partie de ce même système totalitaire. C'est-à-dire que, écoutez, les Chinois sont pas au-dessus des lois, hein, à moins qu'on ait un passeport diplomatique, où là, c'est bien spécial, mais c'est la même chose pour tout le monde à travers le monde. Mais les Chinois ne sont pas au-dessus des lois canadiennes, pas au-dessus des lois américaines, pas au-dessus des lois de n'importe quel pays au monde. Mais quand vous regardez ce que les Chinois demandent au Canada, ils demandent littéralement que la vice-présidente de Huawei ne soit pas soumise aux lois canadiennes.
C'est ça.
Ce qui est impossible. On peut pas faire ça. Il n'y a pas d'extraterritorialité pour les étrangers. Et ça créerait un très dangereux précédent. Vous comprenez bien que si on se met à faire ça au Canada pour les Chinois, d'autres pays vont demander la même chose. Ou pire encore, d'autres pays vont prendre en otage, comme les Chinois l'ont fait, vont prendre en otage des Canadiens en disant ben, « Laissez nos ressortissants tranquilles, il faut qu'ils soient au-dessus des lois ». Mais cette vision-là, cette vision qui consiste à mettre les Chinois au-dessus des lois, qui consiste en fait à mettre des personnes très importantes du régime chinois, parce que madame fait partie de la nomenclatura, c'est-à-dire du haut gratin des dirigeants chinois, mais c'est typiquement communiste, c'est typiquement totalitaire.
Est-ce que... Quelle réponse vont avoir les autorités chinoises si les manifestations se poursuivent? Est-ce qu'on peut assister à une autre place Tiananmen? Est-ce qu'on pourrait voir une répression des manifestants?
Non, je ne crois pas que ça aille si loin. Il faut comprendre que De toute façon, à la fin, les dirigeants chinois à Pékin vont gagner. Parce qu'en 1947, Hong Kong va revenir à la Chine.
Il reste 28 ans à attendre, là, c'est long.
Ouais. Ben, c'est long pour dans la vie d'un être humain, mais dans la vie d'un État millénaire comme la Chine, c'est pas très long, hein. Mais disons qu'en ce moment, c'est pas très bon pour la réputation de la Chine, ce qui se passe. Ça montre les limites du pouvoir de Pékin à Hong Kong. Et ce que ça fait surtout, comme vous l'avez dit au tout début, c'est quand même 2 millions sur 7 millions d'habitants qui sont descendus dans la rue. Donc, il y a un risque de troubles sociaux. Mais remarquez bien ce qui est arrivé. Xi Jinping, le président chinois, ne s'est pas prononcé sur la question. Donc, il a d'une certaine manière sauvé la face. Et jusqu'à maintenant, Mme Lam a dit, écoutez, je vais suspendre de manière indéfinie le projet de loi. Les protestataires, les gens qui sont dans la rue, les manifestants, veulent qu'elle le suspende complètement.
Ils veulent qu'elle
de manière indéfinie,
aussi. Ils veulent qu'elle annule le projet de loi. Il y a des mouvements qui veulent de sa démission, puis ils veulent plus rien savoir d'elle.
Oui, oui, et d'autant plus qu'il y a des élections qui s'en viennent. Il y a des élections locales, puis ensuite les élections nationales qui s'en viennent. Et c'est sûr que les gens qui sont pro-Pékin voient bien qu'il y a une forte partie de la population qui est extrêmement mécontente, et ça pourrait leur faire très mal aux élections à Hong Kong. Et je répète, c'est pas complètement démocratique comme système. Il y a 40 personnes qui sont choisies par un vote proportionnel, puis vous en avez 30 autres qui sont choisies en fait par des corporations, par des grandes compagnies, par corps de métier. Mais ça pose un problème, ça va poser un problème, parce qu'en ce moment, ce sont les partis pro-Pékin qui dominent, mais ils pourraient perdre aux prochaines élections avec ce qui est en train de se passer à Hong Kong. Donc, on préfère reculer pour le moment, parce qu'on voit toute cette grogne.
Je veux vous parler maintenant, je veux ramener ça de ce côté-ci du Pacifique. Là, je veux vous parler de Justin Trudeau. Il y a déjà eu des mots très positifs, puis qui louangeaient même la Chine. On va écouter un court extrait.
There's a level of admiration I actually have for China. Their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime.
Une mauvaise. Donc, Justin Trudeau dit qu'il y a beaucoup d'admiration pour la Chine, que son économie centralisée puis dictatoriale permet de revirer les choses très rapidement de côté pour la population.
Je pense qu'il l'exprime très mal. C'est vrai que l'économie dictatoriale de la Chine, c'est-à-dire le pouvoir dictatorial de la Chine, a permis à la Chine de faire des progrès. C'est surtout la Chine de Deng Xiaoping qui a fait des progrès énormes. Et Xi Jinping, en ce moment, est en train de vivre sur l'héritage de Deng Xiaoping. Mais là, je répète, il l'a changé, cet héritage-là. La Chine, qui était un pays qui était plutôt autoritaire, est en train de devenir totalitaire. Ça ne me fait pas plaisir de voir ça. Ça ne fait pas plaisir aux gens qui aiment bien la Chine. On peut respecter la culture chinoise et l'admirer avec raison. On peut admirer les changements que la Chine a fait depuis 1978. C'est prodigieux ce qu'elle a fait économiquement. Mais attention, le pouvoir de Xi Jinping, le pouvoir que Xi Jinping met en place en ce moment, le pouvoir dictatorial qu'il met en place, est, je le répète, un pouvoir de nature extrêmement totalitaire. Et le danger là-dedans, si on le dit encore moins, c'est que la Chine est en train d'exporter ces systèmes de surveillance de population à travers le monde. Ouais. Le Pakistan, l'Arabie Saoudite, le Venezuela sont autant de pays qui achètent en ce moment les systèmes de surveillance de citoyens par caméra, etc. Donc, le système totalitaire de la Chine est en train de s'exporter à travers le monde. Et c'est une menace pour les démocraties. Donc, Justin Trudeau, je pense, a parlé sans bien connaître ce qui se passait en Chine.
Mais là, on dit qu'il a essayé d'appeler à Pékin, puis qu'on le rappelle pas. Là, il y a quelques jours qu'on entend ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Canada... qu'est-ce qui se passe avec le Canada? Les relations avec le Canada et la Chine sont-elles rendues tellement mauvaises que le premier ministre du Canada est plus capable de parler à ses interlocuteurs chinois?
Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. D'après ce que j'ai lu, hein, j'ai pas déjeuné avec lui ce matin, je le sais pas. Mais d'après ce qu'on lit, effectivement, c'est ce qui s'est produit. Ça n'a pas été démenti par le bureau du Premier ministre Trudeau. Donc, effectivement, le Premier ministre chinois refuse de parler au Premier ministre canadien. Ce qui est insultant et méprisant. Il n'y a pas d'autre terme pour ça. Ce qui montre que la Chine, en fait, considère que le Canada est un pays qui en fin de compte, est un pays un peu vassal des États-Unis. Ils ne se trompent pas complètement là-dessus, mais quand même, qui est un pays vassal des États-Unis. Ouais. Et que de toute façon, ça va se régler avec les États-Unis, cette histoire-là. Et donc, on a une vision ici, hiérarchique du monde, qui rappelle beaucoup la façon dont autrefois le Parti communiste voyait le monde. C'est-à-dire, il disait, d'un côté, vous avez les pays qui sont... socialistes, etc. Puis d'un autre côté, vous avez des pays capitalistes. Et dans les pays capitalistes, tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'ils veulent, ces pays capitalistes, c'est faire de l'argent avec nous, faire de l'argent avec. Ils veulent que leur compagnie fasse de l'argent. Et c'est tout. Donc, c'est une classe dirigeante, n'est-ce pas, ultra riche qui gouverne, etc. Et on les voit revenir en fait avec ce genre de raisonnement, ce qui est pas étonnant parce que effectivement, comme je l'ai dit. La Chine de Xi Jinping s'est radicalisée. Elle est devenue beaucoup plus marxiste que ne l'était celle de Deng Xiaoping. Et donc, on retrouve ce genre de raisonnement maintenant dans la façon d'agir du gouvernement chinois.
C'est fascinant.
Ça, ça pose aussi un problème.
Et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler parce que ça pourrait dégénérer cette crise-là. En tout cas, ou connaître un dénouement, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Loïc Tassé, politologue, spécialiste de l'Asie, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui.
Un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Éric, question pour terminer sur la thématique.
Oui.
Si on creuse 12 700 kilomètres en ligne